Vous avez dû négocier sévèrement avec la Société Générale pour que l'Olympia ne soit pas défigurée.
Oui, ça s'est fait dans un très très bon climat. J'étais, je dois dire, aidé beaucoup par surtout un personnage essentiel qui a joué un rôle très important dans la reconstruction de l'Olympia et dans cette pérennité. C'est Jacques Lang, le ministre de l'Agriculture à cette époque-là, qui a été un personnage formidable. Et puis je dois dire que derrière nous, derrière Paulette, Patricia Cocatrix et moi-même, il avait tout le métier qui était là, qui a participé, qui a donné un coup de main, qui a eu des actions très importantes qui ont fait que la Société Générale a senti qu'on ne pouvait pas tout d'un coup tirer un trait sur cet Olympia-là et qu'il fallait trouver des solutions pour que l'Olympia continue à exister. La solution a été trouvée, c'est-à-dire de déplacer la salle de 30 mètres, de l'enfoncer un petit peu de 2 étages dans le sol, mais que lorsque les gens rentreraient dans l'Olympia, ils retrouvent exactement la même ambiance, le même climat. Je crois que c'est une réussite à ce niveau-là.
Le numéro de la rue est le même ?
De toute façon, on est au même endroit, sur le boulevard des Capucines, et il y a simplement, je vous dis, une descente de 2 étages, mais quand vous rentrez dans l'Olympia, pour ceux qui l'ont connu en 54, en 55, et toutes les années qui ont suivi, eh bien, ils se retrouvent exactement dans cet Olympia-là, et c'est quand même un miracle de ce qu'ont pu faire l'architecte, le maître d'œuvre, et toutes les équipes qui ont travaillé sur cet Olympia.
Donc il y a eu des travaux de rénovation, un nouveau rideau rouge. J'ai lu que l'ancien rideau rouge avait été découpé en morceaux et donné aux invités
de la dernière soirée. Le rideau rouge, le jour de la dernière, ce rideau rouge a été enlevé, le vieux rideau rouge, et puis il était découpé en morceaux. Et grâce, je crois, au ministre de la Culture du moment, un sculpteur qui s'appelle Armand, a fait des blocs en plastique avec une guitare à l'intérieur, le tout sur un bout du velours rouge de l'Olympia, du rideau de l'Olympia. Et on a donné ça à beaucoup de gens. Moi, je sais que j'en ai, dans la maison, je dois en avoir un exemplaire. Et c'est très touchant de voir ce morceau-là. Je crois que c'est un très beau souvenir de l'Olympia. De même que on a fait découper une partie du plateau de l'Olympia sur lequel a été mis un tampon et on a donné ça à beaucoup de gens et on se rend compte à quel point ce sont des talismans qui continuent à exister et que les gens sont heureux de posséder.
Bah oui, c'est collector.
Voilà, exactement, c'est le collector.
On parlait d'une première période difficile où Piaf est venu chanter et ça a beaucoup aidé l'Olympia. Il y en a eu, je crois, une deuxième. Johnny est venu jouer gratuitement.
Ah ben oui, mais à une époque, c'est jamais été très facile, hein, disons-le bien. On a eu encore des moments difficiles, mais enfin bon, ça se passait un petit peu mieux. Effectivement, à un moment donné, on était encore dans des problèmes financiers et Bruno Gatrix a demandé à Johnny « Est-ce que tu pourrais pas venir chanter ?» Et Johnny est venu chanter gratuitement. Lui, il ne touchait pas de cachet. Il a dit simplement à Bruno, il faut vous payer les musiciens, les éclairages, le son, tout ça. Mais moi, je ne veux rien. Oh, il y en a eu quelques-uns comme ça qui ont eu des gestes formidables, qui ont permis à l'Olympia d'exister, de continuer à exister.
Comment on convainc un artiste de venir à l'Olympia ?
Alors, d'abord, il y a les artistes débutants. Moi, je sais que personnellement, j'ai réussi à convaincre beaucoup d'artistes parce que je les ai vus au départ, je les ai connus vraiment jeunes artistes, débutants, chantant 3 chansons ou dans un cabaret ou même arrivant à l'Olympia en début de spectacle. Enfin, j'ai connu beaucoup de gens comme ça, d'artistes comme ça. Et c'est vrai qu'il se crée une ambiance, un climat d'amitié entre l'artiste et moi. Bon, il y en a d'autres qui existent ou qui existaient déjà. Bon, à ce moment-là, il y a des rapports pas aussi faciles, mais vous passez à travers le producteur. Là, maintenant, le contact direct avec l'artiste ne se fait pratiquement plus.
Il y a eu tellement de styles différents à l'Olympia, tellement d'artistes différents.
Oui.
C'est difficile de lui donner une identité, finalement, à cette salle.
C'est-à-dire que c'est nous qui avions toujours souhaité que toutes les musiques du monde soient bien représentées. Je crois que on a réussi ce coup puisque on est même arrivé à faire des concerts de musique classique. Mais là, on s'est très vite rendu compte que l'Olympia, ça représentait une image et que le public des musiques classiques, il n'était pas très heureux de venir à l'Olympia écouter de la musique classique. Bien que l'acoustique de la salle le permette maintenant de manière formidable. Mais c'est vrai qu'on a essayé. Mais j'ai vu que pendant quelques années, par exemple, après mon départ, Radio Classique s'installait, faisait 2-3 soirées à l'Olympia, donc ça prouve qu'ils y étaient heureux quand même.
À quel moment vous prenez les rênes de l'Olympia? Comment ça se passe?
Oh, ben vous savez, ça s'est fait petit à petit. Moi, je suis arrivé en 54 à l'Olympia. Je suis revenu du service militaire après en 59. C'est en 59 que je suis resté très près de Bruno Covatrice, puisque en plus on avait réduit les équipes, Bruno avait réduit les équipes parce qu'on était dans une situation financière difficile. Donc à partir de 59, j'étais tout près de Bruno Covatrice, et c'est là qu'il a commencé à petit à petit à me donner des possibilités d'expression, d'autant plus que lui était devenu maire de Cabourg, et que bon, ma foi, le poste de maire de Cabourg lui prenait beaucoup de temps, et petit à petit les responsabilités il me les mettait sur le dos, mais j'en référais toujours avec lui, je parlais toujours avec lui. Il y avait des choses sur lesquelles on prenait un accord tous les deux, il y avait d'autres sur lesquelles, bon, il me disait tu fais ce que tu penses, hein, voilà.
Vous aviez envie de prendre la tête de l'Olympia,
moi,
ou ça
cherché,
vous incombait?
J'ai pas cherché, je l'ai fait parce que bon, c'était la situation était celle-là. Après, quand Bruno Guadrix est décédé, quand Paulette et Patricia Guadrix m'ont demandé de rester avec elle, naturellement que j'avais envie de rester avec elle et je vais continuer, mais jamais je n'ai eu la pensée d'être le directeur général de l'Olympia et de remplacer Bruno. Jamais, je suis pas un être très ambitieux. Moi, j'étais heureux de travailler dans cette salle. J'étais heureux de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu. C'est tout. Je suis pas à la recherche d'une gloire plus ou moins éphémère.
C'était votre devoir.
C'était mon devoir, c'était ma passion. Merci à ceux qui m'ont permis de vivre cette vie intense et heureuse.
Ça ressemble à quoi une journée dans la peau d'un directeur de l'Olympia?
Tout, vous savez, de commencer vers 9h30, 10h, mais elle se termine surtout à 1h du matin en général. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que, quelque part, j'ai pas été tout à fait à la hauteur à l'égard de ma famille. Par exemple, moi, mon fils, je l'ai eu en 63. Vous voyez, donc à partir de 63, j'avais une famille. 65, j'ai eu une seconde enfant. Je les ai pas vus vivre, je les ai pas vus grandir. Ma femme a eu un courage formidable à accepter de rester avec moi. Et c'était pas évident tous les jours. Heureusement qu'elle a pu travailler après, à un moment donné, avoir une certaine liberté d'action, parce que c'est vrai que j'étais pas là pour le soir m'occuper des enfants, le matin pour m'en occuper aussi. C'est elle qui a assumé tout ça. Je dois dire que je lui tire un grand coup de chapeau d'avoir accepté de rester avec un monsieur qui n'était jamais là, quoi.
Parce que ça s'arrête jamais, ce métier.
Ça s'arrête jamais, ce métier. Vous comprenez, on peut vous appeler au milieu de la nuit pour vous dire il y a un problème à l'Olympia. Ça m'est arrivé quand j'étais à l'Olympia, parce que j'ai vécu quand même avec ma femme, d'ailleurs, j'ai vécu un an et demi dans une loge de l'Olympia. C'est vous dire à quel point ma vie et l'Olympia sont mêlées.
Vous avez repris, c'était la loge de Cocatrix?
Ah non, c'était une loge au deuxième étage, oui, dans lequel Bruno Guadrix avait eu effectivement son bureau, mais que il a déménagé, son bureau est allé, au lieu d'être au 10 rue Comartin, il est allé au 8, hein, et là il avait son bureau directorial. Cette loge, elle était bien. J'ai demandé à Bruno Guadrix si je pouvais y vivre, alors qu'on n'a pas le droit de vivre dans un théâtre. Mais je l'ai fait parce que j'avais pas d'argent. Hein.
Ah oui, parce qu'on s'imagine.
J'avais un endroit pour vivre avec ma femme. Ça ne coûtait rien. C'était ça l'important, quoi.
C'était pas la gloire tout de suite.
Mais non, mais on s'en foutait. C'était pas la gloire, mais c'était l'amour.
Mais peut-être qu'il faut s'en foutre pour réussir.
Moi, de toute façon, je vous dis, je n'ai pas cherché la réussite. Il a fallu que Bruno Guadrix me foute des grands coups de pied au cul, des fois. Je souhaite à tout le monde d'avoir un patron de cette qualité-là.
Qu'est-ce qu'il vous a appris?
Il m'a appris à être un homme. Ce qui est déjà pas si mal.
J'allais vous dire, c'est déjà beaucoup.
C'est essentiel.